Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalot enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdie. Par cette rediffusion, Radio Lapourdie rend hommage au Père Joseph Sabalot, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Aujourd'hui, 22e et dernier épisode, le Concile Vatican II.
Nous achevons notre parcours avec l'histoire de cet événement qui pèse fort sur la vie actuelle de l'Église catholique, le Concile Vatican II. Sur sa signification, sur ses effets, on porte les jugements les plus divers. L'opinion officielle y voit... Ce sont des formules que je relève dans la Croix du 10 janvier dernier, sous la plume de Bruno Frappa. L'événement providentiel par lequel l'Église a commencé la préparation du troisième millénaire. Son enseignement constitue la leçon fondamentale. Dans le même sens, Mgr Moller, évêque de Bayonne, nous engageait dans son mandement de carême à faire notre examen de conscience sur la réception du Concile, ce grand don, disait-il, de l'Esprit-Saint à l'Église. Vivre en Église comme si cet événement n'avait pas existé, ajoutait-il, serait traiter de haut la bienveillance de Dieu à notre égard. En fait, il est impossible de faire abstraction de Vatican II. Appréciation positive aussi chez le théologien René Laurentin. Chacun de ceux qui ont travaillé à Vatican II reconnaît l'effet d'une impulsion plus haute où l'on croit saisir, quasi expérimentalement, la manifestation de l'Esprit-Saint, âme du corps mystique. Aussi, n'est-ce pas sans quelque surprise qu'on lit chez un théologien apparemment dans la ligne de Vatican II, Henri Denis, la phrase suivante. « L'arbre conciliaire a donné des fruits amers. » Il ne faut pas prétendre trop vite que ces fruits ont été rajoutés à la table de l'Église par des esprits malins comme de l'extérieur. D'autres sont plus sévères. Ainsi, un des historiens les plus connus de ce temps, Pierre Chaunu. Dans la longue histoire de l'Église, aucun concile n'aura employé autant de mots pour dire si peu de choses. On ne lit pas les textes du concile, personne ne les a vraiment lus. On les parcourt comme les pages des hebdomadaires qu'ils ont sagement recopiées en tirant la langue. Vous avez là un utile digest des news magazines des premières années 60. Ne soyons pas inutilement sévères à l'égard d'hommes de réelle bonne volonté et dans leur grande majorité de médiocre culture. Chaunu pense surtout à la constitution pastorale Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps, qui est effectivement un long et indigeste catalogue de pensifs. De la part des intégristes, le rejet est brutal. Ainsi, peut-on lire dans la contre-réforme qu'il dit catholique de l'abbé de Nantes, les propos sont de son adjoint, le frère Bruno. Nous tenons le culte de l'homme d'abord ajouté, puis substitué dans l'Église depuis le Concile Vatican II au culte de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa Sainte Mère, pour une hérésie, un schisme, un scandale. Ce culte de l'homme a été proclamé par le pape Paul VI à l'issue du Concile Vatican II, le 7 décembre 1965, il exprime toute la nouvelle religion que nous refusons parce qu'elle est en horreur aux yeux de Dieu, beaucoup plus que ne fut celle de la déesse Rome et de l'empereur Néron, car elle constitue une apostasie formelle après 2000 ans de chrétienté au seuil du troisième millénaire. Sans s'attarder à ces outrances, on ne peut éviter de s'interroger sur la responsabilité de Vatican II dans la crise durable que connaît l'Église dans les nations occidentales. Et il y aurait également lieu de s'interroger sur la signification positive ou négative de cette crise. Pour nous, dans l'immédiat, nous aurons un objectif sans doute plus humble et en tout cas plus positif, tenons-nous au fait que fut et que dit Vatican II. C'est le 25 janvier 1959 que le pape Angelo Giuseppe Roncalli, Jean XXIII, annonça d'un coup l'ouverture d'un synode diocésain à Rome, celle d'un concile œcuménique, le 21e de l'histoire, et la réforme du droit canon. Le synode devait se tenir sans grand résultat dès les mois suivants. Le nouveau code serait promulgué en 1983 sans bruit ni dommage. Par contre, le concile, qui s'ouvrirait 3 ans plus tard, aurait un énorme retentissement. Jean XXIII avait été élu 3 mois plus tôt, le 28 octobre 1958. Né à Sotto il Monte, près de Bergame, le 25 novembre 1881, il avait tout près de 77 ans. Il était donc, à la date de son élection, aussi âgé que l'est actuellement Jean-Paul II, qui est né le 18 mai 1920. On prévoyait un pontificat de transition en attendant Montini, c'est-à-dire sans initiative ni changement remarquable. Angelo Roncalli était un homme tout en rondeur, la sua rotondità, dira-t-il de lui-même, au moral comme au physique, affable et bon, doté d'un humour aimable qui le faisait gentiment se moquer le premier de lui-même, comme savent si bien le faire beaucoup d'Italiens. Il était d'une foi et d'une piété classique et profonde. En pleine période conciliaire, quand se réalise la révolution liturgique que l'on verra, il met Saint Joseph, l'un de ses patrons, au canon de la messe, à la consternation des novateurs. Il n'a absolument rien d'un esprit subversif. Après une longue carrière diplomatique au Liban, en Bulgarie, à Paris, il a été nommé patriarche de Venise en 1953, à 72 ans. Son élection à la tête de l'Église est particulièrement bien reçue à Bayonne, où l'évêque Albert Terrier et le maître d'œuvre Pierre Narbaitz l'ont reçu fin juin 1951, tandis qu'il était nonce à Paris, au cours des plus belles cérémonies religieuses qui ont été organisées dans notre ville depuis le Congrès eucharistique national de 1929. L'annonce du Concile, dont le Saint-Père soumettait l'approbation à l'ensemble de l'Épiscopat, suscita le plus profond étonnement. Personne ne s'y attendait, même pas le pape lui-même, qui céda à une inspiration soudaine. L'Église n'avait pas le sentiment de vivre une crise. Pie XI, puis Pie XII, avaient été les papes les plus considérés, les plus universellement admirés de l'histoire. Le monde se relevait dans l'optimisme des années glorieuses, des ravages causés par la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, la vie, même celle de l'Église, n'allait pas sans problème. L'humanisme communiste, comme on n'hésitait pas à dire, exerçait une séduction à laquelle cédaient beaucoup, même chez les catholiques. L'affaire des prêtres ouvriers était brûlante, en France surtout. Mais enfin, un concile, nul n'en voyait la nécessité. Pendant 4 siècles, on n'en avait connu qu'un, le premier du Vatican, dont le résultat le plus clair, le dogme de l'infaillibilité pontificale, avait peut-être contribué au prestige de la papauté, mais certainement gêné un mouvement œcuménique qui se développait pourtant avec ferveur. Cependant, l'épiscopat, à la quasi-unanimité, donna à Jean XXIII un accord empressé et, à la suite d'un travail de préparation considérable, le concile s'ouvrit dans la basilique Saint-Pierre le 11 octobre 1962. Les participants étaient 3 fois plus nombreux que lors du concile précédent. 2427 lors de la séance inaugurale pour 3070 pères convoqués. Par la suite, le nombre des présents oscillera entre un minimum de 1694 et un maximum de 2399. On conçoit que l'organisation des débats d'une assemblée aussi nombreuse, où la liberté de parole était de principe, n'allait pas sans difficulté. En gros, le système était analogue à celui de nos assemblées politiques, schéma de constitution et de décret rédigé et proposé par des commissions, amendements, on les appelait des maudits, suggérés par les intervenants, nouvelle rédaction des schémas, puis parfois, après plusieurs rédactions successives, vote d'approbation ou de rejet des différents chapitres, et enfin vote sur le texte global de la Constitution ou du décret. Lors des séances générales, il y en eut au total plus de 200 pour l'ensemble, chaque intervenant avait droit à 10 minutes au maximum de temps de parole. La langue à employer était le latin. Aux séances assistaient, outre les pères du concile, évêques et supérieurs généraux des congrégations importantes, mais seulement en tant qu'observateurs, les représentants des confessions chrétiennes autres que la catholique. Notons encore que les moyens furent mis en œuvre pour une large information de la presse. Le concile provoqua échos et controverses en nombre considérable et certains correspondants tels que Henri Fesquet pour Le Monde, Séroux pour Paris Match, Boudarias et Laurentin pour Le Figaro se taillèrent une assez belle notoriété. Parmi les participants, ceux qui paraissent avoir eu le plus d'influence furent le cardinal Liénard, évêque de Lille, qui eut, au tout début du concile, une initiative déterminante pour libérer l'Assemblée de l'emprise de la Curie, les Allemands Frings de Cologne et Dapfner de Munich, l'Autrichien König de Vienne, le Hollandais Alfring d'Utrecht, le Belge Sunens de Bruxelles-Malines, le Canadien Léger de Montréal, le patriarche Melkite, c'est-à-dire de l'Église grecque rattachée à Rome, Maximos IV, son vicaire patriarcal Zogby, le rôle d'un Karol Wojtyla, le futur Jean-Paul II, présent au concile comme archevêque de Cracovie, fut assez effacé. Il resta dans l'ombre de Wyszynski, le fameux cardinal archevêque de Varsovie. Il faut noter d'ailleurs qu'assez peu d'évêques de l'Est avaient pu se rendre au concile, seulement une 20aine d'évêques polonais sur 65, 2 évêques hongrois sur 16, 3 tchécoslovaques sur 15. L'URSS, la Roumanie, la Chine n'avaient aucun évêque présent. On a dit que ce concile avait été à dominante franco-allemande. Et c'est tout à fait vrai si l'on englobe dans cette sphère de haute influence la Belgique, les Pays-Bas et l'Autriche. Aux évêques de ces nations, il faut ajouter des théologiens comme Ranner, de Lubac, Congar, Martelet. Je sais, sur sa propre confidence, tel évêque français dont les interventions en congrégation générale consistaient à lire comme sien les textes dont le dominicain Yves Congar l'avait chargé. L'Italie fournit les leaders de la minorité opposée aux réformes. C'étaient des cardinaux de la Curie, tels qu'Ottaviani, le préfet du Saint-Office, ou Pericle Felici, le secrétaire général du Concile. Il faut mentionner aussi le cardinal Ruffini, l'archevêque de Palerme, Carli, évêque de Segni, et encore Marcel Lefebvre, un Français celui-ci, ancien archevêque de Dakar, alors supérieur général des Spiritains. L'opposition de ce dernier prendra après le Concile une forme particulièrement abrupte, celle de l'Église des Cônes, qui aboutira à un schisme. La première session du Concile, il devait y en avoir quatre, s'ouvrit le 11 octobre 1962 pour être clôturée le 8 décembre de la même année. On y discuta les schémas sur la liturgie, la révélation, l'écuménisme et les communications sociales. On aboutit au vote final, il eut lieu le 14 novembre, que sur la liturgie. Il y eut 2162 voix pour approuver et seulement 46 pour refuser la constitution qui ouvrait la réforme considérable dont nous rappellerons, si vous voulez bien, les lignes essentielles. De tous les effets du Concile, celui-là est le plus visible et probablement le plus important, la rénovation de la liturgie. L'intention fondamentale, la Constitution Sacrosanctum Concilium l'exprime clairement. C'est une participation des fidèles, consciente, active et fructueuse. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature dans la liturgie elle-même et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Le texte même de la Constitution impose tout un train de modifications qui donneront au cérémonial catholique un visage tout différent de celui qui s'était lentement constitué au cours des siècles précédents. Simplification des rites, modification considérable des rituels sacramentaires, emploi des langues usuelles, nombreuses lectures des textes scripturaires, concélébration, communion sur les deux espèces, prière universelle, homélie sur l'Évangile, catéchuménat des adultes, qu'on y ajoute la messe face au peuple, la défaveur des dévotions populaires, le silence fait sur le culte du Saint-Sacrement en dehors de la célébration eucharistique, et nous avons le tableau de ce qui a changé et qui étonne le catholique peu assidu qui se retrouve dans une église au bout d'un long temps d'absence. On nous a changé notre religion. D'autant que les clercs n'ont cure ni du latin ni du grégorien que les pères leur demandaient pourtant de ne pas abandonner et qu'ils sont nombreux à mettre en œuvre une créativité souvent du plus mauvais aloi, alors que la Constitution conciliaire réserve à l'évêque le droit d'introduire la moindre modification des règles liturgiques. Beaucoup attendaient monts et merveilles de la rénovation de la liturgie. Il arrivera au pape Paul VI lui-même de dire « Les gens s'ennuyaient à nos offices. Ils viendront en foule à un culte compréhensible et vivant. » L'avenir devait démentir cruellement cette prévision optimiste. Les catholiques attachés aux traditions éprouveront beaucoup de répugnance pour un culte qui leur paraîtra proche de celui des églises protestantes. Certains le soupçonneront d'être hérétique, quand ils ne le déclareront pas formellement tel. L'ensemble du peuple chrétien ne sera pas retenu de bouder les cérémonies religieuses, et dans les années à venir, la pratique du culte connaîtra en Occident une baisse extrêmement sensible. Serait-ce qu'il est moins important en matière de religion de comprendre que de sentir ? Y avait-il dans la liturgie d'hier un parfum de poésie ou de mystère, une beauté un peu étrange, disparue dans celle d'aujourd'hui ? Celle-ci, plus claire, est-elle du même coup plus exigeante ? Ce sont des questions auxquelles il est difficile de répondre avec quelque assurance. La réforme conciliaire paraît s'être inspirée des meilleures raisons théologiques, des traditions authentiques les plus anciennes. Elle est claire, fondée, cohérente. Pour l'heure, elle n'a pourtant pas porté dans la masse les fruits qu'on pouvait en attendre. Il n'est pas dit qu'elle ne les apportera pas. 6 mois après la clôture de la première session, le 3 juin 1963, à 82 ans, mourait le pape Jean XXIII. Réunis en conclave, le 19 du même mois, les 80 cardinaux élisaient dès le 21 Giambattista Montini, qui, dès le lendemain de son élection, proclamait la poursuite du concile. Le nouveau pontife paraissait particulièrement bien préparé pour sa tâche. Né à Brescia en 1897, dans l'Italie du Nord, dans une famille de juristes de forte tradition catholique et démocrate, lié au leader de la Democrazia Cristiana, les Aldo Moro, Andreotti, Lapida, Fanfani, Montini avait fait carrière à la secrétairerie d'État. Il avait été le bras droit de Pie XII, avant d'être, 9 ans durant, archevêque de Milan. Fin, délicat, intelligent, extrêmement cultivé, Montini, qui prit le nom de Paul VI, devait manifester un caractère tourmenté, indécis, versatile, peu propre à réduire la crise aiguë de l'Église qui allait se manifester. À vouloir contenter tout le monde et amortir tous les heurts, on n'arrive qu'à multiplier les conflits et à les accroître. Pour comble, Paul VI se donna un collaborateur immédiat, Villo, qui était aussi pathologiquement inquiet que lui. Laurentin écrit que la prise de conscience des problèmes nouveaux et innombrables qui se posaient à l'Église et dont le pape était le responsable suprême était pour lui une épreuve redoutable et parfois écrasante. Le pape, disait Paul VI lui-même, a ses peines qui lui viennent avant tout de son insuffisance humaine, confronté qu'il est presque en conflit avec le poids énorme et démesuré de ses responsabilités. Cela va parfois jusqu'à l'agonie. La deuxième session, que Laurentin donne comme dure et tendue, difficilement conduite par 3 organismes directeurs malencontreusement mis en concurrence, le conseil de présidence, le secrétariat général et les modérateurs délégués du pape, se tint du 29 septembre au 4 décembre 1963. Au début de l'année suivante, 1964, Paul VI effectua un pèlerinage en Terre Sainte qui fut en particulier marqué par sa rencontre avec le patriarche écuménique de Constantinople, Athénagoras. Cette rencontre concordait avec un des principaux objectifs du concile, le rapprochement des églises chrétiennes. Le patriarche et le pape ne s'étaient pas retrouvés depuis la rencontre historique et le décret d'union du concile de Florence en 1439 lorsque Constantinople aux abois et si près de sa chute sollicitait le secours de Rome et signait un accord peu durable. La troisième session s'ouvrit le 14 septembre 1964 par une messe concélébrée par Paul VI et 24 cardinaux et évêques. Ainsi, le concile en session mettait lui-même en pratique la réforme de la liturgie. Cette session, qui s'acheva le 21 novembre de la même année, vit le vote à une écrasante majorité de 2151 voix contre 5 de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, la lumière des nations. Ce texte est considéré comme celui qui porte les principes fondamentaux qui commandent l'ensemble de l'œuvre réformatrice de Vatican II. Essayons de dégager ces principes. Précédemment, on avait mis en valeur l'aspect juridique et hiérarchisé de l'Église, société des fidèles soumis au pape et aux évêques. On insistait sur le rôle des apôtres, et plus encore de Pierre, la seule véritable Église ne pouvait être que celle qui, à bon droit, se réclamait d'eux et détenait leur successeur. Concilium Vaticanum primum hoc docet, Pater Eternus, Idatus Christus, Sanctam edificare Ecclesiam decrevit, in Ecclesia sua pastores et doctores esse evoluit, Beatum Petrum, a Christo Domino constitutum fuisse et otius ecclesiae visibile caput. Ce qui signifie, le premier concile du Vatican enseigne ceci, que le pasteur éternel, le Christ, a décidé de fonder sa Sainte Église. Il a voulu que des pasteurs et des docteurs y fussent. Il a établi le bienheureux Pierre comme chef visible de toute l'Église. Vatican II, quant à lui, insiste sur le caractère mystique de l'Église, qu'il donne comme sacrement du salut, royaume de Dieu déjà mystérieusement présent dans le monde, peuple de Dieu, demeure de l'Esprit, communauté de foi, d'espérance et de charité, épouse et même corps du Christ. Est-ce à dire qu'elle n'est rien d'autre que l'ensemble des élus, qu'elle n'a d'autre essence que surnaturelle et spirituelle, comme pensent beaucoup, en particulier parmi les protestants? Non, l'Église, selon Vatican II, est à la fois sociale et spirituelle, à la fois corps et esprit, réalité humaine et réalité divine. La section 8 de Lumen Gentium est éclairante à ce sujet. Je ne me retiens pas de vous la lire. Le Christ, unique médiateur, crée et continuellement soutient sur la terre comme un tout visible son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, par laquelle il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. Cette société organisée hiérarchiquement d'une part, et le corps mystique d'autre part, l'ensemble discernable aux yeux est la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est pourquoi, en vertu d'une analogie qui n'est pas sans valeur, on la compare au mystère du Verbe incarné. Tout comme en effet la nature humaine prise par le Verbe divin est à son service comme un organe vivant de salut qui lui est indissolublement uni, de même le tout social que constitue l'Église est au service de l'Esprit du Christ qui lui donne la vie en vue de la croissance du corps. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, Cette église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Cette église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'église catholique qu'elle se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures, éléments qui appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Donc l'Église se donne comme à la fois assurée de sa vérité et ouverte à tous, suivant sa vocation d'universalité. La constitution Lumen Gentium fait la part belle à l'épiscopat. Évêques même, pour la plupart, les pères du concile insistent longuement sur la grandeur de leur caractère sacramentel et l'importance capitale de leur mission. Par contre, le presbytérat est traité rapidement et n'est considéré que dans sa relation et sa subordination à l'épiscopat. On a pu remarquer que Vatican I avait mis en valeur la papauté, Vatican II, l'épiscopat, et peut-être Vatican III. Mais parlons plutôt des diacres. Car une des innovations les plus importantes du Concile aura été la remise en vigueur du diaconat permanent. La section 29 de la Constitution vaut, elle aussi, d'être intégralement rappelée. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on a imposé les mains non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Selon les dispositions prises par l'autorité qualifiée, il appartient au diacre d'administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l'Eucharistie, d'assister au nom de l'Église au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d'être ministre des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d'organisation, les diacres ont à se souvenir de l'avertissement de saint Polycarpe, être miséricordieux, zélé, marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous. Comme la discipline actuellement en vigueur dans l'Église latine rend difficile en plusieurs régions l'accomplissement de ces fonctions extrêmement nécessaires à la vie de l'Église, le diaconat pourra dans l'avenir être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. C'est à la compétence des groupements territoriaux d'évêques, sous leurs formes diverses, qu'il appartient, avec l'approbation du souverain pontife, de décider de l'opportunité quant au principe et quant au lieu et pour le soin des âmes, de l'institution de ces diacres. Si le pontife romain y consent, ce diaconat pourra être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu'à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme. La quatrième et dernière session du Concile s'ouvrit le 14 septembre 1965. Ce fut pour entendre de suite Paul VI proclamer qu'un synode réunirait à l'avenir tous les deux ans les représentants des conférences épiscopales et que la poursuite de l'œuvre conciliaire serait ainsi assurée. Quelques jours plus tard, au cours de cette dernière session, Paul VI quittait Rome pour se rendre à New York, où, à l'invitation de l'ONU, il prononçait le 4 octobre un discours vibrant comme un plaidoyer pour la paix. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais. Plus jamais. Le monde regarde vers vous comme vers les architectes de la paix. La paix, vous le savez, ne se construit pas seulement au moyen de la politique, de l'équilibre des forces et des intérêts. Elle se construit avec l'esprit, les idées, les œuvres de la paix. Dans les jours qui suivirent, Paul VI interrompit les travaux du Concile sur deux questions qu'il se réserva. Le 11 octobre, il adressa à l'Assemblée un message ainsi conçu. Certains pères ont le projet de soulever au Concile le problème du célibat établi pour les prêtres dans l'Église latine. Nous pensons qu'il ne convient pas de discuter publiquement d'un tel sujet. Notre intention est de garder cette loi du célibat et d'en renforcer l'observation en rappelant aux prêtres de l'Église latine les raisons de cette loi très adaptée aujourd'hui pour que les prêtres consacrent tout leur amour au Christ et au service des âmes. D'une manière analogue, le pape se réserva le problème de la régulation des naissances. L'Assemblée était priée de ne pas en discuter. On sait que Paul VI reprit plus tard à son compte le 25 juillet 1968 dans l'encyclique Humanae Vitae les condamnations portées par Pie XII le 12 août 1950 dans Humani Generis. Pour en revenir au Concile, on est évidemment étonné que Paul VI lui ait ainsi mesuré sa confiance. C'est une manifestation parmi d'autres, mais non des moindres, que les observateurs ont relevé de ce tempérament indécis et tourmenté qui nuisait à la cohérence de ses démarches. Cependant, le sentiment général, au terme de cette dernière session, était que du bon travail avait été fait, des avancées, comme nous disons aujourd'hui, réalisées. Les derniers jours furent marqués par quelques actes de haute signification dans une euphorie à peu près générale. Le 6 décembre, Paul VI prononçait ce discours hardi qui proclamait le culte de l'homme. La religion du Dieu qui s'est fait homme, disait-il, s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème. Cela pouvait arriver, mais cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans borne l'a envahi tout entier. Nous aussi, nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. La religion catholique et la vie humaine réaffirment leur alliance. Le 7 décembre, c'est la levée solennelle des anathèmes contre les orthodoxes, en présence d'une délégation conduite par le métropolite Méliton. Deux jours avant, au fanard de Constantinople, le patriarche Athénagoras avait de son côté proclamé la réconciliation des églises grecques et latines. Enfin, le 8 décembre, en la fête de l'Immaculée Conception, une liturgie émouvante et des messages d'espoir et de paix adressés au monde clôturaient les travaux et les fastes de Vatican II. Nous ne nous attarderons pas sur chacun ou chacune des 4 constitutions, des 9 décrets, des 3 déclarations et des 2 messages du Concile. Notre intention est d'en saisir l'esprit et l'essentiel. Il nous faut donc mettre encore en relief la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Avec la liturgie rénovée, c'est la thèse qui a été, par les catholiques les plus conservateurs, la plus âprement contestée. Le Concile du Vatican, lisons-nous dans le passage essentiel de ce texte de quelques 20 pages, déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Ce principe de la liberté de conscience en matière de religion, qui peut nous paraître aller de soi, qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi », qui figure encore dans la Déclaration universelle portée par l'Organisation des Nations Unies en 1945, ce principe se trouve condamné par le syllabus de Pie IX et l'encyclique Quanta Cura de 1864. Le syllabus, parmi les 80 erreurs qu'il rejette, place celle-ci. Tout homme est libre d'embrasser et de professer la religion que la lumière de la raison l'aura amené à juger être la vraie religion. Cela, pour le syllabus, est une erreur. Et nous nous rappelons que Grégoire XVI s'était précédemment insurgé contre la liberté de conscience au moment en particulier de la crise menésienne, je veux dire de son conflit avec la Menée. De fait, il faut convenir que, sur le plan théorique, la thèse de la liberté de conscience, érigée en principe absolu, présente de sérieuses difficultés. Seule la liberté a des droits, l'erreur n'en a pas. Dans ce sens, Donoso Cortés allait jusqu'à dire « Dieu seul a des droits, l'homme n'a que des devoirs ». Peut-on mettre toutes les religions sur le même pied ? N'y en a-t-il pas une que Dieu a révélée, qui correspond à sa parole et à sa volonté, qui s'impose donc aux sociétés comme aux individus, que les pouvoirs publics doivent favoriser ? D'ailleurs, cette liberté qu'on réclame est bien relative, qui ne voit qu'elle obéit à toutes sortes de pressions. On est chrétien ou mahométan, disaient à peu près Montaigne et Pascal, comme on est périgourdin ou algérien. Les pères du Concile ne se sont pas embarrassés de considérations philosophiques. Ils ont énoncé une thèse d'intérêt pratique. La liberté est un idéal, elle est un bien, elle est un droit. Comment pourrais-je la réclamer en cas d'entrave élevée contre le culte chrétien, à plus forte raison en cas de persécution, si je la refuse aux autres lorsque je me trouve en situation de force ? Le texte conciliaire observe d'ailleurs avec pertinence que l'heure est au mouvement des idées, aux échanges interculturels, à la revendication de toutes les libertés possibles, quand la démocratie fait figure de dogme. À l'heure aussi de la mondialisation, pouvait-on en rester au syllabus, qui déjà en 1864, lorsqu'il parut, souleva des tempêtes de protestation. Si nous essayons de considérer les effets du Concile, Il ne nous semble pas qu'il ait troublé ni le tiers-monde, ni les pays de l'Est. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on vit se tarir le courant qui poussait vers le catholicisme nombre de protestants. Mais c'est surtout dans l'Europe occidentale, celle qui avait eu une part prépondérante dans l'œuvre conciliaire, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, que se sont manifestés ces effets pervers. Un prurite d'innovation, une remise en question générale du donné chrétien, causèrent un considérable désarroi que l'action de Jean-Paul II devait plus tard atténuer, mais qui n'est pas encore totalement dissipée. Baisse de la pratique, crise des vocations, nombreux abandons de l'état sacerdotal et religieux, relâchement de la discipline, obscurcissement de la foi, sécularisation galopante de la mentalité et des coutumes, division des catholiques, ce sont les données que nous avons sous les yeux. Que corrige, il est vrai, l'action du renouveau charismatique et l'engagement de nombreux laïcs au service du culte et de la pastorale. Alors, action du Saint-Esprit, œuvre de Satan, dont les fumées, disait Paul VI, sont pénétrées dans le temple. Disons plutôt que le Concile aura été un avatar dans la longue histoire de l'Église, une heure d'évolution un peu brusquée. Mais il est hors de doute que ce Concile, concile pastoral et non pas dogmatique, sans définition ni condamnation, a ouvert ou encouragé des voies fécondes, telles que la promotion du laïcat et l'instauration des conseils pastoraux, le diaconat permanent, l'écuménisme, l'attitude ouverte envers les religions, l'organisation du catéchuménat ou les conférences épiscopales nationales.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo, c'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. Vous pouvez retrouver et réentendre les 22 émissions du Père Joseph Sabalo sur notre site internet www.lapourdie.net.